Morgen.
Solide.
Live.
Solide. Live.
Avec Dominique Morin.
Radio X.
En fait, des bonnes nouvelles. C'est vraiment pas la journée d'hier qu'on a sur les routes ce matin. Il y a quand même de l'achalandage. Là, ça paraît que la vie reprend de plus en plus. La tête des ponts, surtout pour les gens qui arrivent de la 20 direction est, également de la 73. Pour ceux qui sont en direction Montréal, qui arrivent du centre-ville de Lévis, qui veulent atteindre les ponts, c'est plus à la hauteur de Taniata dans les travaux que vous allez patienter et non pas arriver à la tête des ponts. Sur Capitale, ben, c'est complètement congestionné à partir du secteur Beauport en se rendant jusqu'à Robert Bourassa, tout près des galeries de la Capitale. Et en 4 direction sud, je vous dirais tout le secteur Val-Bélair en Seine-Nord, c'est complètement jamé. Ça reprend par la suite. Mais évidemment qu'on revient dans le trafic à la hauteur des travaux sur le viaduc du chemin Sainte-Foy. Vous nous écrivez au 418-670-9098 pour nous dire ce que vous voyez sur les routes dans la grande région de Québec. On a besoin de bras pour une démocratie en forme. Élections Québec recrute pour des élections provinciales. Postulez dès maintenant au élections.qc.ca. C'est payant.
Madame, messieurs, le voici, Mathieu Bocoté. Salut Mathieu, comment ça va?
Bon, très bien toi.
Très bien. Est-ce qu'on l'appelle Christine Carney ou Marc Fréchette? C'est selon.
Ouais, moi j'appelle ça la PLCAC. C'est-à-dire, c'est assez fascinant le duo, les accouplés du dernier moment entre Marc Carney qui mène une campagne au Québec avec la. Si on était moqueur, on dirait la Governor Fréchette, c'est-à-dire celle qui finalement mène la campagne dans les paramètres fixés par Carney. Puis on l'a vu de manière un peu gênante hier, c'est-à-dire que Fréchette dit voilà le type de politique qu'on a besoin pour répondre aux tarifs. Ça ne doit pas être X, Y, Z, ça doit être tout autre chose. Carney à Ottawa fait ce que Fréchette ne demandait pas. Le lendemain, Fréchette dit « Formidable, Ottawa nous a écoutés ». Donc là, il y a quelque chose là-dedans, c'est-à-dire Christine Fréchette a décidé de mener une campagne où elle se colle à Marc Carney, où elle... comment je pourrais dire ça? Elle applique systématiquement le livre de jeu de Carney en espérant transformer l'élection québécoise en petit référendum anti-Trump dont elle serait bénéficiaire. Avec ce paradoxe que Christine Fréchette n'a pas le début d'un quart de huitième de pouvoir dans les négociations avec Trump, mais qu'au Québec, c'est une élection qui porte sur l'ensemble des enjeux québécois, qui a du logement, à l'immigration, à l'éducation, à la santé, aux impôts, à ça. Et là, est-ce qu'on va balayer tout ça pour voter simplement sur le mode de l'insurrection anti-Trump dont Fréchette deviendrait le symbole, avec en plus, je t'avouerai, ça m'a vraiment mis en colère cette semaine, avec l'arnaque autour du français.
C'est dégueulasse. C'est dégueulasse et ça continue d'ailleurs. Il a sauvé le français et on a beau pas aimer Trump, et effectivement, Trump est sûrement détestable à plusieurs égards. On n'est pas en train de dire que c'est un modèle d'élégance et d'étiquette, là. Par contre, de dire que Trump voulait évincer le français du continent nord-américain, on en est rendu très, très loin. Et hier soir, ici, il y a un spectacle avec des Français et des Québécois à l'Agora, un spectacle qui sera diffusé plus tard cet hiver à TV5, où Roberge est arrivé sur le stage en disant « Heureusement, on était là pour vous, parce que Carney voulait éradiquer le français. On est un bouclier, on vous présente un bouclier musical ce soir et tout. » Mais ça peut influencer le vote, mon cher.
Mais évidemment, parce que le fait est que le problème de la propagande, ça va être efficace. Et moi, ce qui me frappe, c'est que d'un côté, donc, Carney... en fait, c'est l'histoire du Canada qui est résumée ici. Le Canada a globalement tout fait pour effacer le fait français de sa composition interne. Donc, au Manitoba, puis en Ontario, puis aussi, on fait l'histoire longue du Canada, c'est une histoire d'effacement du fait français. Aujourd'hui, le fédéral se bat contre la loi 96. Depuis 40 ans, le fédéral a tout fait pour déconstruire la loi 101. Le fédéral nous impose une immigration massive qui est la première cause de l'anglicisation accélérée de Montréal, de Laval et puis demain des 4-5-0. Le fédéral fait la promotion à coups de dizaines de millions, si c'est pas des centaines de millions, de l'anglais au Québec. Et là, soudainement, le fédéral serait le défenseur de l'identité francophone du Québec. Donc, il nous transforme en bibelots pour se donner une forme de grandeur internationale en disant « Oui, Marc Carney, moi, je défends le français », mais il fait tout, en fait, le régime qui est le sien fait tout pour effacer le fait français au Québec. Et de l'autre côté, Mme Fréchette, qui, encore une fois, je le dis, j'ai rien contre elle personnellement, mais c'est probablement une bonne personne, mais politiquement, elle qui se couche devant tout d'Ottawa en ce moment, seulement dit no way, puis elle devient capitaine Fréchette contre le méchant Donald. Mais un instant, moi, si Mme Fréchette veut défendre le français, ben je l'invite à dire à Marc Carney, on stoppe l'immigration massive, vous cessez de contester la loi 96, d'ailleurs, oui. Vous cessez de contester la loi sur la laïcité, d'ailleurs, vous cessez de contester notre droit d'autodétermination, d'ailleurs, vous cessez la promotion du multiculturalisme au Québec, et là, je prendrai au sérieux la défense du fait français par Mme Fréchette. Mais pour l'instant, se coucher devant Ottawa pour dire no way à Trump, je trouve que c'est de la comédie. C'est de la comédie au mieux, et sinon, c'est de l'arnaque. Donc, devant cela, je pense qu'il faut être assez sévère devant cette espèce d'opération d'enfumage électoral. Il faudrait encore une fois, je le dis, se rappeler qu'il y a d'autres sujets dans la campagne que répéter le mot Trump 3000 fois par jour.
Oui, effectivement. Il y a une précarité économique. Il y a les écoles. Mais regarde, ne serait-ce que cet exemple-là ce matin, je sais que tu es à Paris, là, donc c'est loin de ton profit, mais quand même, dans la région de Québec, jamais on n'aura enseigné à autant de jeunes dans ce que j'appelle des roulottes. Bon, il y a de la réglementation politique, on dit des modulaires, là, mais ça, c'est très particulier. Ça explose cette année. Donc, expliquez, s'il vous plaît. D'un côté, on a un taux de natalité qui est au plancher, on ne fait plus d'enfants, mais de l'autre, ça déborde. Mais dans l'article de Radio-Canada, on fait très, très attention pour ne pas parler des causes du débordement, c'est-à-dire l'immigration.
Cher Dominique, je te rassure, sur mon Facebook ce matin, sur Twitter, que dis-je, j'ai parlé de ça ce matin en disant que ça, on voit donc ce que je disais, cette montée des écoles roulottes, qui est un scandale en passant dans une société démocratique évoluée, les écoles roulottes, ça n'a aucun sens. Oui. C'est lié directement à l'immigration massive. Mais personne ne fait le lien parce qu'on fonctionne selon la pensée technocratique, la pensée en tranchette. Donc là, il y a l'école d'un côté, l'immigration de l'autre, l'insécurité de l'autre, le français de l'autre. Là, on sépare les sujets les uns des autres. Si on n'est pas capable de comprendre que c'est l'immigration massive qui, aujourd'hui, provoque le débordement du système scolaire, eh bien, avec les écoles roulottes, eh bien, on décide de censurer le réel. Et j'espère que ce sujet-là va être présent dans la campagne électorale. Parce que si ça, c'est pas dans la campagne, et puis si ce qui se passe à Montréal n'est pas dans la campagne, si c'est quand même grave ce qui se passe au Québec depuis une dizaine d'années. Si tout ça, c'est pas dans la campagne, et puis on se contente comme des roquets, comme disait De Gaulle, de dire Trump, et puis là, no way, et puis là, on tourne en boucle les phrases du capitaine Fréchette, de la capitaine Fréchette, comme certains la présentent, qui se présente comme capitaine Québec, j'ai l'impression que ça va être une élection détournée. Donc ça, j'espère qu'on va parler de ce dont tu viens de parler exactement. C'est central. Ça sera central. Aujourd'hui, c'est à Québec, mais ça va être ailleurs, puis c'est déjà ailleurs, soit dit en passant, au Québec, dès maintenant. Donc, il faudra en tenir tête.
Ah, c'est bon, parfait. J'avais fait des messages également là-dessus. Je suis content que tu en aies parlé. Parce qu'il y a une médiocratisation de l'éducation et un rabaissement du discours vers le bas. Là, on dit ce matin, oui, mais ce sont pas de bons modules. Ils sont là pour 30-40 ans. Ils ont été bien bâtis. Donc, on est en train de justifier l'injustifiable en disant, mais c'est pas si pire au fond. Ils sont bien éclairés, ils sont bien chauffés et nos enfants pourront bien y vivre. C'est fou. Sonia Lebel, je pensais que c'était quelqu'un de rigueur, moi.
Ben, on est en train de normaliser, en fait, des écoles sur le modèle du tiers-monde, c'est-à-dire des écoles dans des roulottes, on appelle ça des écoles du tiers-monde. Puis ce qui est encore pire, c'est un discours qui cherche à normaliser ça en disant, ben, vous le savez pas, mais c'est la meilleure école que vous pouviez avoir. Attends un instant, il y a pas si longtemps, on faisait une école, là, il fallait des fenêtres dans les classes, il fallait quand même des équipements sportifs, il fallait la possibilité d'avoir, soit dit en passant, il fallait avoir que l'école transmette un savoir et une culture, et pas simplement une espèce de savoir arraché que les élèves ne savent plus quoi faire. L'éducation au Québec va très mal. Eh bien là, qu'est-ce qu'on va... Est-ce qu'on va en parler dans les prochaines semaines ou est-ce qu'on n'en parlera pas? Donc ça, franchement, la question de la surbureaucratisation du Québec, là, je comprends que devant les tarifs, la politique du gouvernement, pour l'instant, c'est comme une forme de PCU généralisée. Eh bien, je m'excuse, mais il y a d'autres politiques possibles, c'est-à-dire baisser les charges, baisser les impôts, faire tomber certaines réglementations, oxygéner l'économie québécoise, faire le pari d'une économie plus libre qui permet normalement de contourner justement l'espèce d'écrasement tarifaire. Mais il faudra en parler, ça, ou est-ce qu'on va simplement se dire que si vous êtes contre la nouvelle PCU, eh bien, vous êtes des anti-Québécois, vous êtes des mauvais Québécois, vous êtes des pro-Trump. Ça devient absurde, cette séquence-là. Donc, je pense qu'il faut... C'est l'urgence du moment, je crois. Il faut détrumpiser la campagne électorale. Il faut éviter que la campagne ne soit confisquée par ceux qui ne veulent pas parler de ce qui est devenu le Québec depuis 10 ans, de ce qu'il sera dans 10 ans aussi.
Que doit faire? Ben, des Trumpisons en cœur ce matin. Faisons-le nous-mêmes. Ben, et posons la question suivante. Qui est le plus en mesure de détrumpiser la campagne? Là, je vois que Charles Milliard, bon, c'est plate, là, Pablo, ben, ça a été une fake news, cette histoire-là, des brownies, mais au final, c'est le Parti libéral qui était déjà pas mal magané quand lui était à sa tête. C'est triste pour lui, mais le pharmacien, fort à parier qu'il ne réussira pas lui non plus. Il est vraiment au plancher dans les comtés francophones. Parlons de PSPP. Ouais, ben, vas-y, Mathieu. Oui.
Ben moi, je pense que dans les faits, c'est, il y a en ce moment... Dieu sait que le Parti conservateur et le Parti québécois n'ont pas le même discours. Bien que le Parti conservateur a fait un virage autonomiste, je le note, mais les deux, le Parti québécois et le Parti conservateur n'ont pas le même discours. Mais ils ont intérêt, je crois, les deux, à parler d'autre chose que de la propagande gouvernementale tambourinée médiatiquement sans arrêt depuis quelques jours. Donc, les deux auraient intérêt à parler de leur sujet, disons ça comme ça. C'est-à-dire, du côté du Parti québécois, par exemple, la question identitaire est une question centrale, oui. La langue, la culture, l'immigration, tout ça. Pour Duhem, la question, justement, de la déréglementation, de la baisse des impôts, la baisse de la fiscalité est une question centrale. Ils auraient intérêt, me semble-t-il, PSPP comme Duhem, à ne pas jouer le rôle de personnage dans un autre film que le leur. Parce que dans une campagne électorale, il faut savoir... On nous dit, une campagne électorale, en ce moment, nous dit les Québécois doivent s'unir. Ils doivent s'unir. Oui, mais s'unir autour de qui? S'unir autour de Fréchette, s'unir autour de PSPP, s'unir autour de Duhem, s'unir autour... Alors, la question qu'on peut se poser ici, c'est on aurait plus avantage, je pense, comme société, à accepter des débats. Donc, des débats, c'est des désaccords civilisés, mais des désaccords pour être capable d'avoir de mener les débats nécessaires, plutôt, encore une fois, que de céder à la propagande du « on doit tous s'unir ». S'unir autour de quoi? On le sait pas, mais on va dire « non, oui, ensemble à Donald Trump, puis il va avoir peur, c'est certain ». Donc, c'est pour ça que je pense que les thèmes qui me semblent essentiels dans la campagne, puis j'en parle un peu dans le Journal de Montréal demain, bon, la question de l'immigration, je l'ai dit, la oui. question de la surbureaucratisation du Québec me semble essentielle, la question de l'école aussi, de l'éducation, va me sembler absolument essentielle, mais la poser autrement qu'on ne la pose normalement. Je pense qu'avec la révolution technologique qu'on va connaître, il y a toute une série d'emplois de gratte-papier, de bureaucrates au mieux inutiles, au pire nuisibles, qui sont appelés à disparaître dans les années à venir. Est-ce que notre système scolaire doit encore préparer toute une génération à fonctionner dans les paramètres d'une économie qui est déjà morte à bien des égards? Donc, d'un côté, l'école doit en soumettre la culture générale absolument essentielle qui permet à l'individu d'être un citoyen et pas qu'un consommateur. Puis de l'autre côté, l'école, ça je pense c'est essentiel, doit être capable de réhabiliter des métiers qui avaient été laissés de côté depuis longtemps. Donc les métiers manuels, les métiers techniques, toute une série de métiers qui avaient été laissés de côté mais qui sont essentiels au développement économique aujourd'hui. Est-ce que ça peut être un élément de débat dans la campagne électorale ou est-ce que la question de l'éducation va être balayée puis on va simplement dire qu'il faut rajouter 8 millions pour faire plaisir aux syndicats? Donc tu vois, je
mais
pense que
cette rigidité-là, Mathieu, dans la grande discussion sur l'éducation, puis là je sais que Milliard a dit que s'il était élu, il organiserait un genre de chantier de l'éducation, en fait, un genre de commission parents 2.0, là, en fait, c'est ce qu'il
les états généraux, il y a eu Garon, on refait le même modèle à chaque 10 ans.
Oui, c'est ça, on donne beaucoup, beaucoup de place à la CSQ et aux syndicats, mais la question que je veux te poser, c'est d'où vient cette espèce de fausse pudeur ou de rigidité qui nous ramène dans un état de paralysie quand vient le temps de changer et de faire mieux pour l'éducation. Est-ce que c'est l'édifice G, les bureaucrates? Je sais que Courchesne, au sortir de son mandat, avait accordé une entrevue à l'actualité et avait dit il y a une force d'inertie à l'édifice G. Drainville avait dit d'ailleurs la même chose également. J'arrive pas à prendre des décisions. Ils sont constamment annulés. Ils ont le break. Ils ont le break à bras, comme on dit en québécois, dans l'édifice G. Qui nous empêche de faire des changements?
Mais Courchesne avait une autre formule qui était excellente à l'époque. Elle avait dit « Je sais ce qui se passe dans l'éducation parce que j'ai des gens qui ne viennent pas que du ministère pour m'en informer. » Donc, cette formule-là, ça m'avait amusé. Non, moi, je pense qu'il faut, en ces matières, il faut avoir des normes nationales, évidemment, d'excellence, tout ça. Mais ensuite, il faut décentraliser au possible. Moi, tout le débat sur l'école à trois vitesses me semble être le débat le plus lunaire qui soit. Donc, on voudrait une forme, certains voudraient une forme d'école uniforme, là, pas d'école privée, pas d'école à vocation particulière. Tout le monde dans le même moule. Mais moi, je suis partisan du contraire, c'est-à-dire qu'il faut décentraliser l'école, il faut déconstruire au plus possible le centralisme bureaucratique du ministère de l'Éducation. Il faut permettre aux différentes écoles d'avoir, dans le respect, encore une fois, de la loi 101, dans le respect d'objectifs d'excellence, d'avoir des objectifs pédagogiques qui sont les leurs. Il faut libéraliser l'école au Québec, ce qu'on appelle en France l'école libre. Parce que ce qui est certain, c'est que le modèle hyper-bureaucratique, contrôlé par les syndicats, qu'on connaît en ce moment, contrôlé par le ministère, qui a déconstruit, soit dit en passant, le savoir, depuis des décennies, une déconstruction progressive du savoir.
Avec le cours de la citoyenneté, qui est un cours bidon.
Bien sûr qu'il a pris le relais un peu de CR à mes égards. Donc, moi, devant cela, je pense que la question de l'école, s'il y avait des vrais nouveaux états généraux sur le mode ou la commune, ce qu'avait voulu faire Jean Garon aussi autrefois. Oui. Mais de vrais trucs, je ne serais pas contre. Ensuite, faut-il les faire et il faut être capable de ne pas être tenu justement par le complexe pédago-ministériel comme on était autrefois tenu par l'Église en la matière. Donc ça, je pense que...
Donc plus de pouvoir, Mathieu, au directeur d'école qui inculque sa culture. Et là-dedans, j'inclus, pour les garçons, plus de culture... Oui, la place aux parents, effectivement, mais plus de place au sport, par exemple, un identifiant scolaire fort et plus d'autonomie aux profs.
Ah ben oui, mais ça m'apparaît évident. La question des jeunes hommes est une question fondamentale aujourd'hui. Parce que autant l'émancipation féminine est fondamentale, autant on voit qu'on a une jeune génération masculine qui est un peu laissée de côté. Eh bien, il y a une psychologie différente des garçons et des filles, là, quoi qu'en pensent ceux qui croient à la théorie du genre, à la déconstruction de toute chose. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut prendre au sérieux le malaise des garçons, le malaise de la jeune génération? Donc, ça vient avec la prise en charge des différences psychologiques, physiques, la question du besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenance, c'est fondamental au secondaire, et ainsi de suite. Est-ce qu'on doit y trouver de réponse seulement dans les réseaux sociaux ou est-ce que les activités sportives à grande échelle permettent pas de construire ce sentiment d'appartenance qui est essentiel à la construction de la personnalité d'un jeune homme? Donc, tout ça me semble être des sujets fort intéressants dans la présente campagne. Puis je précise que ça, le Québec le contrôle, l'éducation. Alors, disons, moi, je suis un indépendantiste primaire, secondaire et tertiaire, mais je constate que le Québec, dans l'état actuel des choses, contrôle quand même quelques pouvoirs. Ce qu'il fait de ses pouvoirs, il peut le faire dans une direction ou une autre. Je pense qu'en matière d'éducation, oui, il est temps d'avoir un vrai, vrai, vrai tournant.
Et je te sens en verve ce matin. C'est pour ça que j'ai une requête spéciale à t'adresser. Oui. Peut-être, pourquoi pas, un petit poème ou une ode à ton grand ami Soudas ce matin. Peut-être un poème. Et lui viendra dire par la suite, « De grâce, je ne suis pas un homosexuel. Cesse tes avances. »
Oui, j'ai bien vu ça. Le poème est déjà écrit, je l'ai lu, je l'ai mis sur Twitter et sur Facebook. Il a répondu d'étrange manière. Je n'avais pas l'impression de le convoiter, je n'avais pas l'impression de le draguer. Il l'a pris ainsi, mais c'est une forme d'érotomane peut-être. Peut-être est-il convaincu que tout le monde est amoureux de lui. C'est possible aussi. J'en sais rien. Je constate que ce jeune homme pense souvent à moi, un peu trop. Comme je dis, c'est que j'ai rien spécialement contre lui. Je constate simplement qu'il il a un certain art de l'acharnement, mais ça le concerne. Je lui ai consacré un jour un unique poème. C'était mon moment soudacien. Ensuite, je passe à autre chose. Lui, je crois, hélas, il n'en est pas capable.
Salut, Ben. Salut.
C'est bon. Bye, bye.
Salut.
Ben oui.
Mathieu Bock-Côté. Courte pause. Rajouter quelque chose?
Oui, la découvrabilité. Là. Je ne sais pas si tu as remarqué que les gens sont rapidement tombés dans le « Ouais, mais Trump, il nous a menti quand il dit qu'il aimait que le français n'était pas... » Il ment tout le temps. Comme si le Parti libéral fédéral n'avait jamais menti au Québec.
Oui. Découvrabilité, encore une fois, les tonnes. Deux secondes. Encore ce matin, Spotify, le français, Cobuz, les nouveautés francophones. Arrêtez, là. Instruisez-vous un peu ces rapides-là. Vous pouvez avoir l'accès. Le texte de la semaine demeure celui d'hier, toutefois, là, Guy Fournier. Ça, c'était très, très drôle. OK, on va à la pause. Et en revenant, c'est la Légion à Radio X.
Morin.
Le sentez-vous?
Live.
On revient dans pas long.
Radio X.